Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans Solway et Coagula.
Magic is political, magic is social, magic is cultural, magic is pretty much everything. This is the alchemical formula of Solway et Coagula.
Pour ce tout premier numéro, nous nous sommes rendus dans la cité de Nostradamus pour rencontrer un homme qui, par sa seule existence, déconstruit tous les discours anti-migrants en construisant un monde au creux d'une vallée franco-italienne où, entre les oliviers, semble pouvoir naître la possibilité d'une utopie. Bonjour Cédric Héroux et merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cet entretien impromptu à Salon de Provence. Alors vous, tout le monde vous connaît, tout le monde connaît votre histoire qui a été largement médiatisée, mais ce qu'on connaît moins, ce qu'on se représente moins, c'est vraiment la vallée de la Roya elle-même, qui est un lieu qui cristallise un certain nombre de fantasmes. C'est un peu une zone perdue pour la nation, pour certains, ou un lieu d'un rapport de force pour d'autres, et en tout cas un hors-champ pour tout le monde. Alors avant tout, je voudrais vous demander de décrire ce paysage, décrire ce lieu vraiment comme vous le voyez quand vous ouvrez vos fenêtres et quand vous le parcourez.
Ben, c'est à 300 mètres d'altitude, on n'est pas loin de la mer, on est à quoi, 20 km de la mer. On ne voit pas la mer d'où on est, c'est très abrupt, donc très rocheux. C'est 300 mètres d'altitude, mais on a l'impression d'être à 1500, 2000. Et donc c'est très escarpé, donc pas mal d'eau. Il y a le fleuve La Roya qui coule pas loin de la maison. Et donc on est entouré d'oliviers. Et puis voilà, il y a la route plus bas sur le terrain, enfin en bas du terrain. Il y a deux accès de la SNCF, un accès, en fait, une ligne qui fait Vintimille-Breil et une au-dessus qui fait Breil jusqu'à Nice. Et on est une espèce de carrefour de toutes les routes et chemins de fer, et les chemins aussi. Voilà. Donc on a pas mal de GR aussi, de chemins qui longent la propriété.
Finalement, on s'aperçoit quand on regarde un peu sur une carte ou sur Google Maps que c'est juste à côté de Monaco, de la Côte d'Azur, de ces endroits qui concentrent beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Et on a l'impression que c'est un voisinage un peu étonnant, tous ces lieux où finalement les gens auraient largement de quoi accueillir beaucoup plus largement autour de cette frontière.
Mais la vallée de la Roya, c'est quand même une vallée qui est assez pauvre malgré tout. C'est quand même agricole, quoi. Pas assez, mais un peu agricole. Donc il y a des maraîchers qui y sont. Il y a des éleveurs de brebis qui y sont aussi. Et puis on est quelques oléiculteurs à cultiver l'olivier. Et c'est vrai que quand on descend, on arrive sur Vintimille, donc en Italie. Et qu'on continue du côté ouest, on arrive sur Menton, Monaco, Nice, donc la Côte d'Azur. Quoi. Et c'est vrai qu'on voit toutes ces richesses. Et moi, j'ai fait du passage de frontières avec pas mal de gamins, de familles et de femmes seules. Et on passait le long de Monaco sur la moyenne corniche et c'était assez troublant de voir la richesse en dessous et les gens dans mon fourgon qui n'avaient rien en fait. Hein. Et on voit ce contraste en fait social en fait entre voilà, deux mondes qui se rencontrent, qui se croisent.
Thank you.
Les cris de nuit ont disparu. Les faisceaux lumineux violant la douceur de la nuit ont disparu aussi. La chasse à l'homme est terminée. Les gendarmes s'ennuient, ils se demandent à quoi ils servent. Le teint dépressif, ils sont assis là, nuit et jour, à regarder dans le vide, à observer aux jumelles mes poules, à la recherche d'un ver, ou par manque de sauterelles, un brin d'herbe épargné par la chaleur de l'été.
Et vous, vous habitez du coup sur une frontière, une limite, et je voulais vous demander comment vous définiriez, vous, la notion de limite et comment vous vivez avec et sur cette limite.
Ben après, c'est notre territoire, il est franco-italien, quoi. Notre culture, elle est franco-italienne, et notre identité est franco-italienne aussi, quoi. Et Sarkozy, pendant un moment, avait lancé un débat sur l'identité au singulier, l'identité nationale. Je ne pense pas qu'il y ait une identité nationale, il y a des identités qui font une nation. Et je me sens beaucoup plus à l'étranger quand je suis au Pays Basque, quand je suis à Paris ou quand je suis à Strasbourg, que quand je suis à Vintimille. Et donc du coup, c'est ce qui est un peu troublant, c'est qu'on nous a remis une frontière qu'on avait oubliée durant quasiment 20 ans. Et on se retrouve avec des problématiques de frontières. Et puis c'est ça qui nous a un peu obligés à nous engager et puis à ouvrir nos portes pour accueillir les personnes qui étaient bloquées à cette frontière-là.
Parce qu'il y a des philosophes comme Jacques Derrida, par exemple, qui disent qu'être limitrophe, enfin, le fait d'habiter sur la limite, c'est la tordre, la plier et la casser. Est-ce que vous avez le sentiment d'être limitrophe dans ce sens-là ?
Ouais, peut-être. Ouais. Après, moi, je ne connaissais pas la frontière non plus, quoi. Depuis que je suis dans la Roya, il n'y a plus de frontière. J'y suis depuis 2002. Et après, c'est sûr qu'on a les bons côtés de la frontière, avec tout, voilà, les bons côtés, les mauvais côtés de la frontière, quoi. Donc le mélange de cultures qu'apporte un espace frontalier et les problématiques aussi qu'apporte une fois que cette frontière est fermée. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est des cultures qui se mélangent, quoi, la culture italienne, la culture française, et ce qui crée justement notre culture, quoi. Donc, des espaces limitrophes peuvent être beaux et dangereux à la fois, quoi.
Pour d'autres personnes, la frontière, c'est une ligne continue qui ne doit pas être franchie, enfin, comme ceux sur le col de l'échelle qui étaient prêts à mettre un petit truc orange pour la matérialiser plus. Et pourtant, il y a des personnes qui s'y tiennent, qui s'y maintiennent et qui se cramponnent un peu à cette ligne de crête. Enfin, je veux bien sûr parler des migrants. Et le discours dominant veut les faire passer pour des espèces de spectres qui rôdent là, comme ça, pour une masse spectrale et informe de migrants sans individualité, pour donner l'impression finalement qu'ils sont dans une demi-vie qui ne vaut... Qui vaut moins que nos vies à nous d'occidentaux. Et cet état de sidération qu'on cherche à nous imposer cherche aussi à nous prouver qu'on ne doit pas les aider. Et pourtant, vous, Cédric Héroux, vous avez réussi à sortir cet état de sidération. Comment vous avez fait ?
Après, les passages de frontières, ça a toujours existé. Puis ça fait pas longtemps qu'elles existent non plus, ces frontières-là. Mais en tout cas, quand elles ont été mises en place, elles ont toujours été franchies, quoi. Et l'envie de franchir des zones dites infranchissables, ça a toujours été dans le sang de l'homme, quoi. Quand on nous dit de ne pas aller là, ben on a envie d'y aller, d'aller voir, quoi. On pensait qu'il y avait une frontière entre la Terre et la Lune, pourtant on y est allé. Et voilà, la découverte aussi de l'Amérique, ça s'est fait comme ça. Il y avait une frontière qui était compliquée à passer, c'était l'océan. Et on y est allé quand même, quoi, parce qu'il y a une envie d'aller à l'endroit où interdit, ou l'envie d'aller à l'endroit. Voilà, donc ça a toujours été franchi, les frontières, quoi. Et tant mieux, quoi. Les grandes évolutions de l'humanité ont été grâce au franchissement des frontières, au franchissement des barrières.
Chen, le gros chien noir, a cessé d'aboyer. Elle aussi est triste. La nuit est calme comme avant. L'avant tourmente. L'avant, quand tout était normal. Plus de gamins arrivant comme le vent sans prévenir après des mois, voire des années d'errance entre guerre, mer et désert. Je n'ai plus de regard venant d'Afrique, étincelé par la volonté de vivre. La sensation de réconfort de les savoir arriver chez moi sains et saufs a disparu. Le plaisir que ces gamins aient réussi à déjouer comme un jeu d'enfant les contrôles policiers, les caméras infrarouges, les militaires, la Méditerranée.
« au-delà du franchissement de la frontière, vous franchissez une forme de frontière vers l'autre, puisque vous choisissiez de le considérer, comme si la considération c'était un acte politique de vous dire non, c'est une personne et je vais l'aider. Ce qui est presque une position qui paraît aller de soi a priori, mais qui dans l'espace politique dans lequel on est actuellement paraît totalement un acte politique subversif.
Ben, beaucoup de gens ont su que j'ai passé une frontière et se sont dit c'est un acte militant, etc. Et c'est pas un acte militant, ça a été un acte politique, dans le sens où on nous a imposé une problématique dans la vallée de l'Aroyen. Et on n'est pas des militants pro-migrants à la base, pas du tout. On est devenus militants pro-migrants parce qu'il a fallu trouver des solutions pour ces personnes-là, des solutions juridiques, humanitaires et politiques du coup. Mais nous, on a eu des gens en danger. Après, c'est avéré que c'est des personnes dites en situation irrégulière, donc des personnes venues d'Afrique, pour différentes raisons d'ailleurs. Et nous, on a aidé des gens et surtout, on s'est senti responsable d'un territoire, du territoire de la vallée de l'Aroya. Et pour nous, il était inconcevable de laisser dormir des gens à la rue et surtout les laisser se mettre en danger en franchissant cette frontière-là, quoi. Et ce qui nous a trouvé, enfin moi, ce qui m'a semblé complètement aberrant, c'est une espèce de jeu de loi où les gens avancent de case en case, et puis si on a la chance, on saute la case prison, on saute la case danger ou la case voire mort. Et c'était ce jeu de loi qui est complètement absurde, où on oblige les gens à se mettre en danger pour accéder à un endroit où on fait une demande d'asile dans un pays de leur choix, ou pour que les mineurs isolés soient protégés, quoi. Et je trouvais que c'est complètement absurde d'obliger les gens à se mettre en danger pour accéder au droit à la demande d'asile, en fait.
Avec la diffusion de Libre, du coup, le film de Michel Toesca, et en plus la médiatisation de votre action, vous êtes devenu une sorte de figure. Est-ce que vous ne pensez pas que votre image risque d'une certaine manière de vous échapper et de permettre à certains d'une certaine manière de s'exonérer de toute action en se reposant un petit peu sur votre action à vous individuelle en tant que Cédric Héroux ?
Après, la plus grosse action, je pense qu'elle est dans les bulletins de vote. Hein. Donc souvent on entend dans les réseaux associatifs, est-ce qu'on fait de l'humanitaire ou est-ce qu'on fait du politique, comme s'il fallait dissocier les deux. Et pour moi, faire de la politique sans faire d'humanitaire, c'est rendre hors sol la politique. Et je ne pense pas qu'on puisse influer sur la politique sans parler à un large public. Après, on ne demande pas aux gens de s'investir forcément d'héberger un migrant chez lui. Si les personnes le font, tant mieux. Mais ce qu'il faut, c'est ouvrir le débat et la compréhension pour la question simple, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont ici sur notre territoire et comment on fait pour que ça se passe bien. Donc la question, elle est là. Et je pense que la réponse, on l'aura avec des bulletins de vote, des bulletins de vote qui engendreront un discours politique plus à même à anticiper des problématiques futures, des éventuelles problématiques futures dues à une non-gestion de la migration. Parce que je pense pas que les gens qui sont dites contre, parce qu'on fait un clivage des pro-migrants d'un côté et les anti-migrants de l'autre, mais c'est bien plus compliqué que ça. Et je pense pas que les personnes qui soient contre la migration soient contre les personnes migrantes elles-mêmes. Elles sont contre des conséquences négatives dues à une mauvaise gestion de la migration. Donc c'est vrai que une migration mal gérée, ça crée des statuts sociaux qui sont pas terribles. Et donc du coup, ça crée la ghettoisation, ça crée ce qui emmène à la délinquance, à de la violence. Et je pense pas que la violence ou la délinquance est une origine nationale, raciale, ethnique ou religieuse. C'est les conséquences en fait d'un statut social. Et c'est pour ça que quand on fait de l'accueil, on fait de l'intégration, on donne la possibilité aux gens en fait de pouvoir s'intégrer dans de bonnes conditions. Parce que je vois pas comment des gens qui arrivent là, d'où qu'ils viennent. Hein. Comment les personnes qui dorment à la rue pendant un an, deux ans, voire trois ans, en groupe de 100, 200, 300, comme il peut y avoir à Paris, voire un millier, puissent bien s'intégrer, puissent être bénéfiques à l'Europe et à notre nation, quoi. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est faire de l'accueil pour que ça se passe bien, quoi.
Était pour l'Europe bien trop proche. Ici, chez nous, sur nos terres, il était facile de dénoncer et d'humaniser ces flux, ces flots, ces migrants, ces personnes. Il était facile de donner un prénom, un sourire. Il était facile de se battre pour eux, avec eux, grâce à eux.
En faisant de l'accueil, en faisant une action de cette sorte, ça a transformé ce bord, cette frontière qui était la Roya, en une forme de centre, parce que tous les regards se sont tournés à un moment donné vers ce lieu qui était un petit peu en marge, cette vallée dans laquelle des personnes se mettaient volontairement en marge d'un système qu'ils rejetaient, donc le système capitaliste en l'occurrence. Et cet endroit se retrouve aujourd'hui à devoir assumer le rôle politique d'un centre. Et du coup, je me demandais comment s'organise la vie dans ce qu'on pourrait appeler ce petit fragment discret d'utopie qui est devenu la Roya avec votre histoire.
Après, la Roya est connue parce que c'est vendeur, c'est tout. C'est ce qu'on a fait, s'il n'y a rien d'exceptionnel. On a hébergé des gens, comme beaucoup on héberge en France et en Europe. On a transporté des gens, et beaucoup on transporte aussi. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Moi, je suis directeur de centre de jeunesse, et je suis le chauffeur taxi, je suis un peu juriste aussi. Et il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, en fait, c'est les gardes à vue, et surtout, c'est de ne pas plier et de ne pas se soumettre à une menace de prison et de rester basé sur des valeurs fondamentales, de justice fondamentale contre un système d'État qui menace et qui se sert de la justice pour nous menacer et nous arrêter. Ce qui est peut-être impressionnant, c'est pas forcément l'action, c'est le fait de s'opposer à une menace. Quoi.
Et concrètement, comment vous vivez ? Est-ce que ces personnes sont juste de passage, ou alors est-ce qu'elles sont destinées à rester là avec vous, dans une espèce de communauté que vous avez envie de créer, ou pas ?
Il y a les deux, en fait. Il y a des gens de passage, donc on a mis en place un système qui permet aux gens d'accéder à leur demande d'asile, donc de les empêcher et de leur donner une possibilité de se déclarer avant même de passer des dangers. Donc des dangers, c'est les contrôles policiers. Hein. Donc détourner un contrôle policier, ça peut emmener à la mort, ça peut... qu'on voit des femmes à Vintimille seules et des réseaux de prostitution autour pour se servir en fait de ces personnes sans papier, parce qu'il faut savoir qu'une personne sans papier qui disparaît, personne ne va la chercher, la rechercher. Pour un mineur, c'est pareil, et la conséquence de la fermeture de frontières, ça a été en fait des réseaux de passeurs, des réseaux de pédophilie, des réseaux de prostitution, et voilà quoi en fait.
Le tour est bien joué, plus besoin de sévir à Vintimille, à Menton ou ici dans ma vallée. Le flux, les flots, les sourires, les yeux étincelants d'avenir resteront loin. Les larmes salées sont désormais leur univers. Je les imagine calmes, sans bouger, le regard profond, cherchant le fond. Là-bas, plus de sens, plus d'envers, ni d'endroit, plus de haut, ni de bas. Là-bas, plus de larmes, plus de guerre, plus de torture, là-bas, tout est calme.
Je voulais vous lire une phrase de ce livre donc, que j'ai amené, qui s'appelle « Sidéré, considéré, migrant en France 2017 » de Marielle Massé, et qui dit en conclusion « Mieux que des bords, délaissés et activement immobilisés, des franges, qui seraient déjà les preuves qu'on pourrait faire autrement puisqu'on fait autrement. » Est-ce que vous êtes la preuve vivante qu'on peut faire autrement, et que du coup on doit faire autrement, et que c'est pour ça qu'on essaye de vous catégoriser comme délinquant ?
Je suis l'une des preuves. Après, je suis un outil médiatique, je suis un outil, et beaucoup d'associations l'ont compris, que Cédric Herrou, c'est un outil médiatique, et il faut s'en servir, quoi. C'est tout. On a besoin de représentation pour alimenter un débat, et il faut se servir de Cédric Herrou pour le faire, quoi. Après, voilà, je leur ai dit, hein, ce qu'on fait, c'est rien d'exceptionnel, hein, ce qu'on fait, quoi. C'est assez simple, et c'est pragmatique. Et je crois que où on peut gagner, c'est sur notre côté pragmatique, de dire la question simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là, quoi, tout simplement, quoi. Comment on fait pour que ça se passe bien ? Et ce qu'il faut dénoncer avant tout, c'est on voit les actions gouvernementales de la France, même de l'Europe, leurs actions en ce moment, c'est quoi ? C'est d'entraver l'Aquarius, c'est d'empêcher les gens de sauver d'autres gens en Méditerranée en perdition. Et je pense pas que les Français aient envie de noyer des gens pour pas qu'ils viennent sur notre territoire, quoi. Et les conséquences directes, en ce moment, c'est ça, quoi. Il y a une personne sur 5 qui meurt en Méditerranée aujourd'hui. Il y en avait une sur 17 qui est mourée le mois dernier et une sur 42 l'année dernière. Donc on voit vraiment que les actions de l'Europe, bah, c'est une noyade organisée, quoi. Et je crois que dans 10 ans, dans 15 ans, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devront se justifier de leurs actes, et on parlera de crimes contre l'humanité dans pas longtemps. Et c'est un crime contre l'humanité qu'on fait en ce moment, quoi. Et la France doit garder ses valeurs et respecter ses valeurs. Et on le voit aussi, par exemple, avec la Corse. La Corse, sur les premiers bateaux, en fait, qui étaient refusés d'accoster sur les côtes italiennes, les bateaux de secours, la Corse avait dit, bah non, on les prend. Et beaucoup ont dit, oui, ils font du buzz médiatique, etc. Mais c'est pas ça, c'est que même si les Corses sont a priori contre la migration, mais il y a quelque chose qui prône avant tout ça, c'est le fait, en fait, d'accueillir un bateau naufragé, en fait. Voilà. Et cette valeur-là, ben, elle dépasse la question migratoire. C'est que la Corse est une île, entourée de la mer, donc de la Méditerranée, et ils savent que, enfin, c'est dans leurs mœurs, dans leurs coutumes, de ne pas empêcher un bateau d'accoster sur leur port et un bateau qui a sauvé des gens, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce débat pro et anti-migrant. On n'est peut-être pas d'accord sur le fond, etc., mais au moins les personnes sont là, comment on fait pour que ça se passe bien? Et le discours, je pense qu'il faut sortir un peu du discours médiatique médiocre et du discours politique qui est complètement médiocre, et se dire, voilà, comment on fait, quoi. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de partis politiques utilisent la migration à des fins électoralistes. On a fait de la politique un métier, un business, et beaucoup de gens, en fait, fédèrent autour d'eux par la peur, et donc on se sert de la migration pour faire peur aux gens, et c'est à but purement électoraliste, quoi. Mais le problème, c'est jusqu'où on va aller, et on voit la montée du Front National, enfin des extrêmes droites en Europe, et voire même là en ce moment au Brésil, et voilà, c'est où on a envie d'aller. On sait dans notre histoire ce qu'a donné, en fait, la montée des extrêmes droites. Ça a toujours fini dans le sang, et en empêchant tout ça, quoi. Justement, en ouvrant le débat et en montrant de la compréhension. Moi, je ne pense pas avoir un discours naïf. Je sais de quoi je parle, je sais ce que ça veut dire que l'accueil. Et de rassurer les gens en disant, ben, vous avez peur. Ben, moi aussi, j'ai eu peur en 2015 quand j'ai vu tous ces gens arriver. C'est pas parce que j'ai peur des Noirs, parce que moi, j'étais en quartier, j'ai été éduqué avec des Noirs, des Arabes, des personnes issues de la migration. J'ai pas peur des Noirs, c'est pas ça, j'ai pas d'a priori, mais de voir ces gens fuir la guerre, la dictature, ça nous met en face d'une réalité. Donc il y a deux possibilités, soit on affronte cette réalité, ou alors soit on se cache et on se protège psychologiquement derrière des discours, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et en rejetant le problème. Et c'est un problème qui est là, qui est en France, qui est dans le monde, c'est un problème mondial. Et voilà, c'est s'engager dans une dynamique politique pour que ça se passe bien.
Merci beaucoup, Cédric Héroux, d'avoir répondu à nos questions, et à bientôt, j'espère. Merci.
L'Europe aura trouvé la solution, loin des yeux, loin du cœur. Le flux restera au milieu des flots. La mer étouffera peut-être notre silence. Ma mère, celle de mes frères italiens, tunisiens, portugais ou marocains, n'aura plus jamais la même odeur.